Fille.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, la parole est à tous ceux qui veulent entreprendre en Afrique avec le retour du coach. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel.
Directeur général d'Afrique Search, société de conseil en ressources humaines et à vos heures, coach pour les jeunes voisins et voisines qui rêvent ou qui l'ont déjà fait, entreprendre, monter sa boîte sur le continent. Chez nous, on les appelle tout simplement les JPAG.
Les patrons de l'Afrique qui gagnent.
Jeunes patrons de l'Afrique.
Les jeunes, évidemment.
Et vous aussi d'ailleurs, vous avez été un JPAG à vos heures, hein, il y a très longtemps.
Oui. Jadis, maintenant j'ai des cheveux blancs.
7 milliards de voisins à l'heure de l'entrepreneuriat. Lundi dernier, nous donnions la parole à des étudiants de l'université de Bambay au Sénégal pour parler des freins psychiques, de la confiance en soi, de la capacité à convaincre déjà son entourage proche. Aujourd'hui, comme chaque mois, avec vous Didier, on examine des projets déjà démarrés ou sur le point de démarrer. Il vous suffit donc d'appeler notre studio pour nous exposer vos business plans synthétiquement et puis les blocages aussi auxquels vous êtes confrontés. Didier vous écoute, vous conseille, appelez-nous dès maintenant pour passer dans l'émission au 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp et vous pouvez aussi poster vos messages à 7milliards@rfi.fr pour qu'on travaille avec vous en amont et passer dans l'émission du mois prochain. 7milliards@rfi.fr.
7 milliards de voisins.
T'as un projet, t'as un business plan, alors viens en parler au coach.
JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Encore faut-il les découvrir, ces talents. Didier Akwété, votre forum des PME s'est déroulé à Johannesburg début novembre. 300 PME présentes. Quelles étaient les nouvelles tendances qui ont émergé? Alors, il faut quand même préciser que ce n'est pas des toutes petites PME qui viennent à votre forum. Hein.
Alors, ce n'est pas des toutes petites, mais à l'échelle de l'Afrique ou du monde, c'est que ça reste quand même des entreprises de taille relativement raisonnable. C'est vrai que le problème des PME, on le connaît. Accès au financement, accès à des nouveaux marchés et de manière générale leur capacité à croître plus vite pour devenir des champions. Et pour une fois, au forum de Johannesburg qui avait lieu en marge, vous savez, du grand forum d'investissement de la BAD, même ce qu'on appelle les DFI, donc les agences de développement international qui participaient à notre forum des PME, ont pris tellement conscience aujourd'hui qu'elle commence à mettre en place des produits spécifiques pour les PME, voire même des produits d'accompagnement pour leur permettre de se professionnaliser, d'être aux standards internationaux pour pouvoir participer à des gros marchés. Jusqu'à présent, ce sont des acteurs qui passaient par les banques, oui. Donc les banques de détail, qui elles-mêmes n'arrivent pas en réalité à satisfaire les besoins des PME. Et donc d'abord, il y a une prise de conscience qu'il faut inventer de nouveaux canaux pour accéder aux PME directement avec des programmes de soutien. Deuxièmement, c'est qu'avec les technologies de l'informe, les nouvelles technologies, le financement des PME est en train de connaître des bouleversements incroyables. En Afrique du Sud, on avait invité par exemple deux de ce qu'on appelle les FinTech qui avaient participé au forum, qui aujourd'hui, en ligne, prêtent de l'argent aux PME. En l'espace d'une année, ils ont réussi à prêter 500 millions de dollars à des PME, sans les connaître, mais grâce au système d'information qui permet, une fois que la PME est connectée, de comprendre son cycle d'activité, de comprendre ses besoins, ouais. Et de lui faire un crédit en ligne à travers les plateformes digitales. Donc ça, c'est quand même une innovation majeure qui va aider les PME sur le continent africain, mais globalement, il y a une prise de conscience et c'est par là que la création d'emplois et la croissance du continent vont passer.
Une dernière question avant qu'on donne la parole à nos premiers porteurs de projets. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème sur les segments des tickets de financement? Les banques, c'est des très gros tickets. Les agences de développement sont souvent aussi des gros tickets. Le microcrédit, c'est tout petit. Et qu'est-ce qu'il y a sur le segment des... votre forum des PME, c'était déjà des PME qui recherchaient des tickets de financement à plusieurs centaines de milliers d'euros. Or, des PME ont parfois besoin de moins et elles ne savent pas qui intéresser pour démarrer.
Et effectivement, c'est ce qu'on appelle un peu la mésofinance entre les agences de microfinance et les banques, où justement ce segment est celui vraiment sur lequel il faut se concentrer aujourd'hui avec des tickets plus petits. C'est vrai, une PME qui
elle
a besoin,
avoir besoin de 100 000 euros seulement.
Ou même de 30 000 euros ou 50 000 euros.
C'est là trop aujourd'hui. Gros pour le microcrédit et trop petit pour et les banques et les fonds d'investissement. C'est trop petit.
Et donc, c'est ce segment dans lequel entrent les fintech, donc les nouvelles sociétés en ligne justement, et des petites banques qui commencent à prendre ce segment, mais avec un modèle qui reste à inventer. Parce,
oui, parce qu'il faut en même temps accompagner
risque,
les PME.
Le suivi, exactement. Et c'est là où justement
les chronophages,
les DFI viennent pour justement apporter le soutien financier qu'il faut pour accompagner la transformation des PME. Et on serait dans un monde parfait qu'on va appeler par exemple le Sugarland, où là justement on crée l'écosystème qu'il faut pour ces PME, pour qu'elles grandissent dans des conditions beaucoup plus vertueuses.
Bon, évidemment c'est un sujet à suivre et ô combien passionnant. Didier à côté, vous êtes prêt? On donne la parole à une première entrepreneuse et bien sûr je redonne le numéro de téléphone du standard 33 1 84 22 71 71. Bonjour Carole.
Bonjour.
Carole, vous avez 32 ans, vous êtes à Abidjan. Votre parcours, c'est un master en marketing et stratégie au CESAG à Dakar. Vous avez travaillé 3 ans en régie publicitaire et en agence de communication. Et puis, vous avez créé, il y a 7 mois, Canon Food Services. C'est une entreprise de transformation de fruits, de légumes, de céréales, avec des jus locaux que certains connaissent déjà maintenant à Abidjan, puisque vous avez démarré la distribution, sous la marque Martha. C'était le nom de votre maman. C'est le nom de votre maman, d'ailleurs.
Effectivement.
Parce que vous avez commencé le petit commerce très jeune avec elle.
Oui. Bonjour, coach.
Bonjour,
Carole. On a commencé les jus naturels très jeunes avec notre mère et ma sœur. C'était vraiment une transformation traditionnelle. Donc, étant petite, déjà, j'avais promis à ma mère de lui faire honneur en créant une usine de jus de fruits. Voilà.
Alors, aujourd'hui, ça y est, elle existe, cette usine. Honnêtement, vous n'êtes pas vraiment toute seule sur le marché. J'étais à Dakar la semaine dernière, on se perd tellement il y a de nouvelles marques locales, sans compter les jus informels par des tantis. Et donc, je sais que c'est la même chose à Abidjan et dans d'autres capitales. Qu'est-ce qui vous différencie? Parce que vous n'êtes pas toute seule.
Effectivement. Déjà, nous, les jus Martha, on met l'accent sur le goût. Sur le goût, on essaie de faire quelque chose de vraiment traditionnel, mais dans un packaging correct, bien présenté, pour donner envie aux consommateurs de pouvoir l'acheter. Mm-hmm. Parce que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs sont beaucoup plus exigeants. Donc, les gens ne se contentent pas de prendre, par exemple, le Bissap, dans des sachets.
Ouais.
Et voilà, les consommateurs sont beaucoup plus exigeants.
Ils sont plus exigeants parce qu'ils ont du choix aujourd'hui, hein, Didier, on est bien d'accord.
Oui, non, effectivement, il y a de plus en plus de choix. Et c'est ça aussi qui rend le marché intéressant, parce que le marché est en train de grossir. Et pour des nouveaux acteurs comme Carole, c'est intéressant.
Ouais. Vos jus, ils sont hyper sucrés, comme beaucoup de jus qu'on trouve sur le marché pour répondre aux attentes des consommateurs, ou pas?
Non. Justement, on a travaillé sur le taux de sucre parce que ce qu'on avait constaté, c'est que les jus locaux étaient beaucoup trop sucrés. Ouais.
Bon, ça va faire plaisir aux docteurs de priorité santé, alors. C'est très bien. Alors, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes en phase de lancement du produit. Vous distribuez dans les supermarchés, dans les restaurants, dans les stations essence. Le financement, il a été financé sur fonds propres, hein, vous et votre associé, c'est ça?
Oui.
Quelles sont aujourd'hui les difficultés sur lesquelles vous butez, Carole?
D'accord. Donc, comme tout jeune entrepreneur africain, c'est vraiment le financement auprès des banques, des institutions financières. L'accessibilité auprès est vraiment difficile.
Et pourtant, vous avez plusieurs mois d'existence et vous pouvez déjà arriver chez le banquier avec vos chiffres de vente.
Oui, mais généralement, les banques demandent au moins 3 ans d'existence. Ils veulent avoir des bilans sur 3 ans au moins. Et il y a quelques microfinances quand même qui essaient de raccourcir cela et faire des facilités. Ouais.
Alors, vous avez un autre problème de ressources humaines ?
Oui. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a des difficultés à trouver de la main d'œuvre et aussi de bons profils, surtout pour le volet commercial. Donc, aujourd'hui, la question que j'aimerais quand même poser au coach.
Oui, on vous écoute, hein, Carole.
Quel conseil il pourrait me donner pour pouvoir développer le côté ressources humaines. Voilà.
Et une dernière question également.
Oui, une question. C'est comment est-ce que pour un jeune producteur, on pourrait pénétrer le marché européen?
Bon. Donc, il y a une question sur les financements, les banques comme d'habitude, sur les ressources humaines, et puis le marché européen. Didier, à côté, qu'est-ce que vous pensez? Alors, je sais que vous aimez bien le packaging de ces jus, parce que ça compte oui, hein, quand on se lance dans la grande distribution.
Effectivement, on voit de plus en plus de production locale avec des présentations aux standards internationaux. Parce que quand vous allez dans un supermarché, vous rentrez en rayon, ce qu'on appelle le packaging, donc le facing dans le rayon est très important pour attirer le consommateur. Et de ce point de vue, les produits de Carole sont plutôt réussis, honnêtement. Sur la partie financement, évidemment, vous savez, une banque demande toujours avoir un peu de recul sur une activité, donc c'est pour ça qu'on demande au moins 3 ans pour voir un peu le cycle d'activité, le développement. Dans le cas d'espèce, là, vous allez plutôt
7 mois,
trouver...
c'est trop court.
Oui, 7 mois, c'est trop court, parce que la banque n'a pas assez de recul. Donc, c'est plutôt un business angel qu'elle va devoir trouver, ou ce qu'on appelle un venture capitaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à prendre le risque sur Carole et miser sur son développement. L'autre alternative, et c'est aussi une des discussions qu'on avait en Afrique du Sud, vous savez, sur les questions de PME, c'est que les grandes surfaces où vous référencez votre produit, et je sais par exemple que Carrefour l'a fait en Côte d'Ivoire, si votre produit effectivement est validé, est référencé, c'est le grand distributeur qui va vous accompagner. Comme ils l'ont fait pour des producteurs de viande, de bœuf qu'ils ont accompagné.
Ça veut dire par exemple en prépayant des livraisons pour qu'il y ait du cash, ça peut être ça, ça peut être
autre chose. Ça peut être ça, ça peut être mettre en place une chaîne logistique pour Carole, qui n'a plus à gérer, par exemple, la dimension logistique. Ça peut être aussi de dire, comme des entreprises comme Orange, qui ont des fonds de soutien aux start-up et petites entreprises, qui peut dire, parce que vous êtes référencé chez nous, et que nous allons vous garantir au moins 1 an ou 2 ans de commandes, qui représentent tel volume de chiffre d'affaires, nous allons vous garantir auprès de la banque, en disant, nous vous couvrons, et en contrepartie, le distributeur ou qui devient partenaire va suivre votre cycle de production, va vous mettre de la main d'œuvre à disposition, va vous couvrir auprès de la banque, va vous accompagner dans votre cycle de trésorerie. Donc, ça devient un vrai partenariat.
Juste, Carole, pour qu'on comprenne bien, là, vous avez mis combien pour démarrer, vous et votre associé, et vous avez besoin de combien encore au bout de 7 mois?
On a démarré avec environ 5 millions.
D'accord. Donc un peu moins de 9 000 euros. Hein,
Oui, bon, c'est un petit montant, mais avec ce qu'elle réalise, c'est extraordinaire. Comme quoi, quand je dis parfois « commencez petit », maintenant le produit existe, avec 5 millions, elle est référencée dans les grandes surfaces. Maintenant, c'est l'accompagnement qui lui manque. Et sur la question de financement, les idées que je viens de donner peuvent être
une façon d'appréhender. Et il vous manquerait combien là, pour investir?
Pour investir, avoir de nouveaux équipements, construire, on est à environ 38 à 48 millions.
Alors ça, par exemple, donc c'est de l'infrastructure. Il y a ce qu'on appelle le crédit bail, par exemple, qui permet en fait de faire financer les infrastructures par une entité tierce qui en détient la propriété, jusqu'à ce que vous finissiez de rembourser donc vos mensualités et que même vous puissiez en faire l'acquisition lorsque la valeur est résiduelle.
Et là, donc, on est dans de l'industrie, hein, donc évidemment, il faut plus d'argent que pour des services.
Il faut plus d'argent et un montage différent. L'infrastructure, donc ces équipements, doivent être financés différemment. Son cycle trésorerie doit être financé différemment. Et on l'avait vu d'ailleurs dans une des émissions, on a parlé du cycle de financement. et justement des canaux de financement selon la nature d'investissement et du besoin.
Sur les ressources humaines ?
Alors, sur les ressources humaines, effectivement, quand on commence une entreprise, c'est toujours difficile d'attirer les meilleurs.
Qui on doit embaucher en priorité, en fait, là ?
Ah, bah alors, elle est dans la production. Donc déjà, si elle assure sa production, ça veut dire qu'il lui faut déjà quelqu'un qui assure la production. Et ça, je suppose que c'est fait. Maintenant, il faut aller vers le marché. Et donc ça, c'est sa problématique.
Donc des commerciaux.
Comment elle va vers le marché pour distribuer beaucoup plus son produit. Donc, si elle a un bon directeur, d'abord, c'est d'abord elle-même le directeur commercial, j'allais presque dire, il faut ensuite qu'elle puisse coacher une équipe de jeunes qui ont faim, qui en ont envie, qui ont envie d'aller gagner des parts de marché. Faire venir des seniors que vous aurez du mal à payer, généralement, c'est un schéma difficile et qui vont vous quitter assez rapidement. Donc, miser sur des jeunes qu'on va former.
D'accord.
Prenez un coach, on va dire, par exemple, madame, vous allez embaucher Madame Kouakou comme coach pour ces jeunes à Abidjan, qui va vous coacher ces jeunes et va les accompagner et va vous permettre de les faire grandir avec vous.
Donc c'est vraiment de la force de vente, hein, là, ce qu'il faut.
Et, elle est obligée. Alors, l'autre alternative, ce qu'on vous ne pouvez pas, c'est d'externaliser la force de vente. En lancement de produits, ce n'est pas très recommandé parce que vous avez besoin de ces retours du marché pour améliorer votre produit, améliorer votre positionnement, améliorer votre marketing. Mais c'est une alternative lorsqu'on outsource la force de vente, c'est-à-dire vous embauchez une agence qui a des commerciaux et qui, dont c'est le métier, donc qui connaît le job et qui va placer vos produits et en contrepartie touche une commission sur tout ce qui est placé.
Oui, et ça peut coûter évidemment plus cher. Comment pénétrer le marché européen en un mot quand on est producteur ? Déjà s'installer un peu plus sur place en Côte d'Ivoire ou viser tout de suite plus loin ?
Déjà bien couvrir le marché local. Je pense que c'est d'abord une priorité. Le marché local, le marché régional. Parce que la stratégie d'exportation en dehors déjà du marché local et vers les marchés européens, c'est beaucoup de réglementations. C'est de l'agroalimentaire, les questions sanitaires, les questions de conservation. C'est vraiment, c'est extrêmement contraignant. Donc, trouver un partenaire éventuellement qui maîtrise toute cette réglementation, qui peut gérer toute la chaîne logistique jusqu'à la distribution, c'est le plus simple.
Ouais. Enfin, il y a de quoi faire avec la sous-région
déjà.
Il
y a largement de quoi faire. Déjà.
L'objectif, Carole, pour les jus Martha, c'est de produire 10 000 litres par mois d'ici fin janvier 2019, c'est-à-dire d'ici presque un an, et de les écouler d'ici un mois plus tard, en fait. Hein, c'est ça ?
Oui. Ouais. Oui.
Vous êtes bien parti ou pas pour ces objectifs ?
Nous sommes bien partis.
Merci en tout cas, Carole.
On est actuellement à 6 000 bouteilles.
Ah ouais, vous êtes déjà à 6 000 litres.
En 7 mois.
Ouais, d'accord,
mois. C'est très encourageant.
Bon.
Très
encourageant. Et les petites motos, je vois sur les photos, là, les petites motos au camion, là, c'est pour les livraisons de jus, ça, qui sont très chouettes.
Pour les livraisons.
Ouais, oui. Toutes blanches avec le logo Martha et le dessin en vert, ça fait frais, ça donne envie. Hein.
Oui.
Non, c'est très bien présenté, en tout cas. Le marketing est plutôt réussi.
Merci, Carole. Très bonne journée. Et bonne chance à vous. Bien sûr, vous nous donnez des nouvelles. Très bonne journée à Abidjan. 33 1 84 22 71 71. Également, vous pouvez nous envoyer vos projets à 7milliards@rfi.fr. On est avec le coach Didier à côté.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Avec le coach Didier à côté.
Sylvain est en ligne avec nous du Bénin. Bonjour Sylvain.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 28 ans. Vous êtes à Akpro Misereté, à 15 km de Porto Novo. Je ne connais pas. Je connais Porto Novo. C'est joli, Akpro Misereté ?
Oui, Akpro Misereté, c'est l'une des communes banlieues de Porto Novo. Ah. Nous sommes à 5 km de Porto Novo, centre.
D'accord. Alors, votre parcours a commencé, c'est intéressant parce que ça a commencé par l'échec. L'échec au bac, vous avez raté 3 fois le bac. Je précise quand même que c'est le cas de près de 75% des candidats hein, au Bénin qui ratent le bac. Bonjour le gaspillage d'ailleurs au passage. En 2014, là, vous avez gagné. Vous avez gagné un concours organisé par le gouvernement. Et vous obtenez une formation de 6 mois pour devenir un jeune entrepreneur agricole. 4 ans plus tard, vous êtes en train de créer la fontaine d'huile qui sera, parce que c'est pas encore complètement démarré, mais qui sera une entreprise de production d'huile de palmiste. Alors l'huile de palmiste, vous connaissez Didier ?
Ah bah oui.
Hein, c'est pas l'huile de palme, c'est à base des noyaux.
différents.
Et avec, on obtient donc en pressant ces noyaux de l'huile de palmiste, et avec les résidus de noyaux, eh bien on fait du tourteau de palmiste qui permet de nourrir l'élevage. Alors, l'huile de palmiste, c'est vrai, c'est moins connu. Qui a besoin de cette huile de palmiste sur le marché à l'heure actuelle pour que cela suscite une vocation d'entrepreneur pour vous, Sylvain ?
Actuellement, l'huile de palmiste, c'est une huile qui est de couleur claire, jaune clair. Et elle est douce avec une saveur agréable, mm-hmm. qui dégage une odeur semblable à celle de l'huile de coco.
Exactement. Et elle a les mêmes propriétés, parce que je dis ça, on s'est renseigné, Claire Fage nous a beaucoup aidé, la chroniqueuse des matières premières, pour comprendre ce marché. Elle ressemble à l'huile de coco dans sa composition chimique, c'est ça, il y a des tensioactifs qui justement peuvent provoquer la mousse du savon pour les shampoings, les détergents, etc.
Oui, bien sûr. Parce qu'on l'utilise dans l'usine de la fabrication des savons,
oui.
à la place de l'huile de coco.
D'accord. Le seul problème, c'est que elle a des tout petits rendements. Pour 10 litres d'huile de palme, on a 1 litre seulement d'huile de palmiste. Alors, je ne sais pas si on peut s'enrichir avec l'huile de palmiste, même si après, il y a les débouchés pour les noyaux broyés. Ça fait des tourteaux de palmiste et ça, on s'en sert pour le bétail. Aujourd'hui, quels sont vos débouchés commerciaux et à quel niveau vous prévoyez d'intervenir dans le cycle de production ? Vous allez récupérer la matière première auprès des gros producteurs d'huile de palme, c'est ça ?
Oui, les matières premières sont achetées auprès des gros producteurs. Et aussi, il y a des machines spécialisées dans les collectes des noix de palmiste.
D'accord, donc vous récupérez les noyaux, c'est ça ?
Oui, je récupère les noyaux.
Et là, vous obtenez, avec une machine à presser, une huile de palmiste.
Oui, avec déjà que les noyaux sont récupérés auprès des fournisseurs. Donc maintenant, moi, je vais ici ça avant de les traiter.
Est-ce qu'il y a déjà de la concurrence sur ce marché au Bénin, sur cette huile de palmiste, très appréciée donc des fabricants de cosmétiques ?
Oui, actuellement, il y a quelques concurrents sur le terrain. Certains sont à Cotonou, certains sont à Calavi, il y a quelques gens qui sont à Porto-Novo également, et dans le plateau du pays.
Ouais. Donc il y a déjà de la concurrence, mais il y a une demande qui est plus forte que la production.
Oui, la demande est plus forte que la production.
Pourquoi?
Parce que les concurrents n'arrivent pas à satisfaire la demande qui vient. Parce que la demande, d'abord, les fabricants de savon qui sont au Bénin ne sont pas satisfaits autant. Et aussi, nous avons aussi le géant Nigeria qui est à côté de nous et qui demande aussi de l'huile de palmiste auprès des producteurs béninois.
Oui, alors évidemment, dès que vous prononcez le mot Nigeria, tout de suite, les yeux de Didier Akwété s'allument parce qu'il pense marché.
Marché, évidemment.
Exactement.
Emmanuel.
Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, concrètement ?
Aujourd'hui, j'ai déjà obtenu la machine après les formations, j'ai fait mon point d'affaires et j'ai commencé par les étapes qu'il faut pour que l'entreprise soit créée. Donc, j'ai pu avoir la machine, la pierre, la peste. J'ai pris le but avec quelques fois qu'il faut, les démarches qu'il faut. Donc, actuellement, il me faut un peu de levier, disons, un petit fond pour le déroulement, le commencement des activités.
D'accord. Donc, vous avez la machine qui coûte quand même pas loin de 2000 euros. Vous avez aussi un terrain pour installer la petite unité de transformation. Et rien de plus avancé, finalement. Alors, quelles sont les questions que vous vous posez ou vous posez au coach ?
Oui. Actuellement, j'ai déjà la machine. Il y a tout ce que nous voulons faire. Il y a la machine. Il y a aussi le site où il faut implanter l'entreprise. C'est à Port-Mestérité également. Donc, je voulais demander au coach comment susciter un financement quand les banques demandent 6 mois d'activité pour évaluer le chiffre d'affaires.
Oui. Et les autres questions ?
Quelle serait la méthode pour faire connaître l'entreprise ? Une fois l'entreprise lancée et les premières ventes réalisées, comment garder une croissance exponentielle ?
Bon, alors...
Ça, c'est Sugarlone, la croissance exponentielle. Non, alors, d'abord, vous savez, une entreprise qui démarre, la banque n'a pas pour objet de financer le risque. Parce qu'une entreprise qui démarre, c'est risqué. Même lorsqu'elle se développe, c'est toujours risqué. Donc, c'est normal qu'une banque demande avoir le cycle d'activité sur, sur quelques années pour voir ce que ça produit. Donc, avec ce que vous me dites, je ne vois pas de banque qui accepterait de vous financer, de vous accompagner. Donc, nous sommes plutôt vraiment dans ce qu'on appelle le venture capital, le business angels, ou alors peut-être un petit fonds d'investissement comme des fonds comme IEP, hein, qui sont prêts à mettre des petits financements de 15, 20 000 euros, 50, dans des petits fonds. Donc, le financement bancaire classique, je serais étonné que vous l'ayez parce que vous n'avez pas assez de recul en termes d'activité. Donc, ciblez plutôt ce que je viens de lister, sinon, ça me paraît difficile. Et puis, ce qu'on appelle aussi les friends and family, c'est-à-dire les amis et la famille, parce qu'ils croient dans votre projet, vont mettre un peu d'argent au début pour vous permettre de démarrer. Et au bout d'un an, la banque éventuellement pourrait vous accompagner.
Parce sinon, que là, il manque combien concrètement pour démarrer la production et la commercialisation si vous avez déjà la machine, Sylvain ?
Oui, il me manque, avec 5 millions, je vais démarrer concrètement et avoir tout.
Donc, disons, c'est pas beaucoup.
Oui, mais
c'est
une
pas
banque,
beaucoup, c'est 9 000 euros.
Pour livrer tout.
Oui, c'est pas beaucoup, oui. Justement. Donc, une banque va pas vous prêter 5 millions avec une activité qui n'a à peine démarré. Donc, nous sommes dans la configuration, justement, du friends and family, famille, amis, qui peut vous apporter.
Ça veut dire que là, Sylvain, il n'arrive pas à convaincre son entourage proche. De mettre moins de 9 000 euros sur la table.
Eh bien, peut-être que le projet tel qu'il a élaboré n'est pas convaincant pour l'instant.
Mais qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, mais le projet dans l'absolu, parce qu'il y a un marché en face. Donc, moi, je parle toujours marché. S'il y a un marché, on peut raisonner.
Les Nigérians qui ont besoin d'huile de palmiste qui est produite en quantité insuffisante à l'heure actuelle pour fabriquer des savons et des produits cosmétiques.
Alors, deuxième possibilité, c'est ce que je dis tout à l'heure à Carole. Si vous avez un industriel qui a besoin de votre produit, mais qui n'en a pas assez, cet industriel est prêt éventuellement à investir chez vous pour que vous puissiez l'approvisionner suffisamment parce qu'il en a besoin.
Est-ce
pour
que vous
produire.
Avez été voir des industriels qui fabriquent du savon au Bénin, Sylvain ?
Oui, bien sûr. Nous avons des industriels qui vendent du savon. Nous avons aussi une à...
Et qu'est-ce qu'ils disent quand vous allez les voir ?
Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à vous accompagner ?
Je suis allé voir un qui m'a dit qu'il vient d'acquérir des machines pour renforcer sa capacité, donc il est un peu affiché. Donc je suis encore les autres, je cherche des clubs pour pouvoir les voir, mais ils sont un peu coincés ces derniers temps.
Alors, l'autre alternative aussi, c'est-à-dire que quand vous démarrez un projet comme celui-là, avec autant de limites, j'ai compris que déjà que vous arriviez, vous, à vous procurer la matière première. Sauf que c'est la phase de transformation aujourd'hui qui va vous poser un petit souci. Est-ce que vous avez vu des industriels qui ont déjà ces presses et qui vous permettraient de faire la transformation dans un premier temps ?
En louant les presses d'un industriel, d'une
Exactement.
Certaine manière. Hein.
Pour avoir votre produit final que vous allez vendre aux clients.
Oui, oui. Parce que les matières premières existent déjà. Donc, il me suffit de produits et les industriels vont prendre ça.
Donc, est-ce que vous pouvez, si vous n'arrivez pas à acquérir les outils de production, aller produire chez quelqu'un qui a déjà les machines, puisque vous avez, vous, la matière première. Donc, vous faites un partenariat où vous allez, dans un premier temps, produire chez un industriel pour vous permettre déjà de vendre votre produit au marché. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé ?
Je n'ai jamais pensé à ça, parce qu'un jour, je parlais de gens, je n'ai jamais encore négocié, parce que les amis, les concurrents qui sont sur le terrain, même pas trop pour venir chez eux, faire des tas chez eux.
Il ne s'agit pas d'arriver en disant que vous êtes concurrents les uns les autres. Vous devenez partenaire.
Parce que vous avez la matière première. Si vous avez la matière première, vous savez, aujourd'hui, on va aller dans des chaînes d'activité de plus en plus séquencées. Quoi. C'est ce que je dis parfois. Si vous avez la matière première, quelqu'un a l'outil de production, en vous associant, vous pourriez produire plus et du coup aller convaincre un banquier de venir vous financer au lieu de galérer dans votre coin et peut-être finalement de jamais avoir la taille critique, comme vous dites, alors avoir une vente exponentielle. Donc, regardez des schémas différents que celui de la banque classique auquel je crois pas beaucoup. Une banque qui va vous donner 5 millions pour démarrer le projet, j'y crois pas beaucoup. Donc, regardez plutôt les schémas alternatifs dont nous avons parlé. La deuxième question, vous dites comment je fais pour promouvoir mes produits. Alors là, justement, on va retourner un peu en marketing. Vous êtes en ce qu'on appelle un marché B2B, c'est-à-dire business to business. Vous êtes un industriel, en guillemets, une société, vous vendez à des sociétés. Vous ne vendez pas à un consommateur final qu'on appelle B2C, business to consumer. Donc, quand vous êtes en B2B, vous, ce qui est encore plus facile, c'est que vous avez votre cible qui est tellement bien identifiée, vos industriels, vos acheteurs, que vous devez aller rencontrer. Le marketing digital à ce stade ne sert pas beaucoup. C'est vraiment la stratégie qui consiste à aller rencontrer ces industriels, à aller rencontrer ces utilisateurs de vos produits pour les convaincre d'être votre partenaire et d'acheter vos produits. Donc, B2B, regardez attentivement et lisez tout ce qui est le marketing B2B qui va vous aider au lieu d'aller dépenser de l'argent en B2C qui aujourd'hui ne concerne pas votre marché. Et il y avait une dernière question, les ventes exponentielles. Comme je dis, pour l'instant, là vous
on
rêvez Sugarland, regardez déjà votre marché local. On n'est pas encore dans la dynamique exponentielle où tout le monde, je mange des sucettes, lèche des glaces, suce des... Enfin, non, on n'est pas encore dans ce schéma. Concentrez-vous sur le marché local. D'abord, trouvez des alternatives pour produire une fois que vous avez la matière première et après vous verrez que le marché se développera progressivement.
Très bonne chance, Sylvain. Vous avez pris des notes hein, sur les conseils de Didier Acouetté, là. Il est une petite école de commerce à lui tout seul, là, en quelques minutes. Merci, très bonne journée à Agpro Misereté. Et puis, bonne chance pour ce projet qui a de l'avenir. Il faut trouver juste les bons partenaires et puis aussi aller à la pêche aux clients, comme vous l'a bien expliqué Didier. On continue à vous donner la parole, les voisins et les voisines. Vous êtes porteurs de projet, vous avez déjà démarré une entreprise. On en discute. Vous parlez de vos problèmes avec Didier Acouetté. En direct. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Yao nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Yao.
Bonjour Emmanuel. Bonjour Didier.
Bonjour Yao.
Yao, vous avez alors vous êtes ingénieur, vous avez été chercheur, vous avez été professeur au 2IE, à l'école d'ingénieurs, le 2IE à Ouagadougou, que beaucoup de nos auditeurs connaissent. Et puis vous êtes rentré au Togo il y a 4 ans pour créer Kia, un Energy Group. C'est une entreprise de groupe électro-solaire. Donc c'est un peu comme un groupe électrogène, sauf que ça marche pas avec du gazole, mais avec des panneaux solaires. Vous assemblez, vous commercialisez des unités solaires pour les particuliers. Et ce projet est né de vos expériences et de vos recherches. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne techniquement, parce que j'imagine que c'est une super solution pour les particuliers au délestage d'électricité dans les villes, mais aussi en milieu rural. Et puis quel est un peu le modèle commercial ?
Merci Emmanuel. En fait, les groupes électro-solaires sont, comme vous l'avez dit, des systèmes solaires autonomes qui sont compacts, mobiles, standardisés et multiservices. J'insiste sur le volet multiservices parce que, par exemple, je donne le cas de l'agriculteur qui peut, pendant la journée, l'utiliser pour l'irrigation et rentrer avec le soir pour alimenter ou satisfaire ses besoins électriques domestiques.
Ah oui, donc rien à voir avec des panneaux solaires qui sont fixes et qui sont installés sur le toit de la maison, c'est super.
Oui, en fait, l'intérêt, c'est, par exemple, l'agriculteur peut avoir son champ solaire dans son champ, et pendant la journée, puisque c'est un système qui est mobile, pendant la journée, il l'amène au champ, connecte ça à ses panneaux solaires, il fait son irrigation et le soir, il déconnecte et il amène chez lui alimenter ses équipements. Le meunier peut le faire pareil par rapport à son moulin et puis le soir, il rentre et satisfait ses besoins domestiques avec. Et en ville, on peut l'utiliser comme des systèmes anti-délestage. Et puis pour les entreprises PME, PMI et même les ménages qui veulent avoir assurer certaine continuité de fourniture d'électricité, peuvent bien utiliser donc nos systèmes. Et il y a l'autre côté qui est très intéressant, c'est que nous avons aujourd'hui de plus en plus de gens en ville qui ont des fermes. Et donc, pendant le week-end, beaucoup aiment aller dans leurs fermes. Et là, ils n'ont pas d'électricité. Et donc, ils peuvent utiliser...
On emmène le groupe électro-solaire. D'accord. Vous connaissiez cette solution technique, Didier ?
Je ne l'ai pas vue, mais de nom, oui.
D'accord. Et comment vous commercialisez ce groupe électro-solaire qu'on peut donc trimballer facilement ? Ça prend quelle place ? Ça tient dans un coffre de voiture ?
Oui, en fait, on en a plusieurs catégories.
Alors, ouais. Fonction de la puissance.
En fonction de la puissance. Donc, les deux petites gammes peuvent rentrer dans un coffre, dans une coffre de voiture 4x4,
ouais.
Facilement.
Uh-huh.
Et donc, vous pouvez trimballer ça. Et aujourd'hui, nous commercialisons plutôt sur commande. Il y a des clients qui font la commande et puis nous livrons dans un délai d'une à deux semaines maximum. Et donc, c'est la stratégie que nous avons utilisée jusqu'alors, mais en fait, le problème, comme vous le savez, reste le coût par rapport à ces systèmes solaires.
Mmh.
Et pour pouvoir à la fois, non seulement améliorer la présentation de notre produit et aller vers une production en volume pour faire baisser les coûts donc de vente, nous avons envisagé depuis maintenant bientôt 3 à 6 mois une industrialisation de ces groupes électrosolaires qui nous a d'ailleurs valu le premier prix de la BOAB. Récemment.
Bravo.
Et donc, merci. C'est par rapport justement à ce volet que nous voulons changer de stratégie commerciale, rester nous intégrateurs de solutions et avoir des intermédiaires commerciaux, notamment, d'ailleurs, c'est ma première question au coach Didier plutôt. Nous voulons maintenant utiliser d'abord, un moyen de paiement à tempérament, c'est le système classique PA pseudo, donc permettre à nos clients de payer, de faire une première mise, par exemple, de 20% et de payer le reste sur 3 à 4 ans.
Ouais.
Et donc,
c'est pas comme un leasing, c'est pas une location, on loue pas le groupe électrosolaire, parce qu'il y a des systèmes comme ça de commercialisation. Là, c'est pas ça que vous envisagez, hein.
Non, pas du tout. C'est pas une location. La personne, au bout de 3 ans, 4 ans, devient propriétaire.
D'accord. Et pendant les 4 années, le groupe électrosolaire est garanti. Hein.
Elle est garantie, exactement, pendant cette durée. Et l'autre amélioration que nous apportons, c'est que même après la garantie, nous n'aimerons pas abandonner le client. Nous proposons aujourd'hui de nouvelles solutions qui sont ce que nous appelons des primes solaires, c'est-à-dire des primes d'assurance solaire. C'est-à-dire le client peut assurer tout ou une partie du système, par exemple assurance remplacement des batteries, assurance remplacement des onduleurs, assurance vol et incendie, assurance touriste, sur la durée de vie quand même du système qui est de 20 ans. Donc il souscrit à cette prime de façon sur une base annuelle ou mensuelle, un peu comme on a suivi.
Oui, d'accord. Parce qu'il faut quand même bien préciser que c'est un achat important. Voilà, ça tourne autour de 1 000 euros, si je ne me trompe pas. Voire plus. Hein, sur le kit vert de base, c'est autour de 900 euros, me semble-t-il, hein, mais ça peut monter beaucoup plus.
Oui, oui. Non, c'est bien ça, c'est autour de 950 euros.
C'est ça.
Celui de 800 watts, donc un KVA.
Alors, pour les services rendus, évidemment, c'est un bon investissement, mais encore, effectivement, on comprend bien pourquoi le modèle de commercialisation et les propositions de paiement sont capitales pour une somme comme ça, surtout si vous vous adressez à de la zone rurale. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Acouetté? Et sur les questions que pose Yao sur, en gros, est-ce qu'il faut des intermédiaires commerciaux, développer un réseau de vente nous-mêmes et quel modèle de commercialisation choisir à l'heure actuelle ?
C'est un très bon produit, effectivement. Vous savez, on va de plus en plus vers des solutions décentralisées d'accès à l'énergie. Et les succès qu'on voit en Afrique de l'Est, au Kenya notamment, sont effectivement le reflet de ce succès, de ces solutions qu'on appelle hors réseau. Sauf que là, c'est vrai, le coût d'accès reste quand même un peu élevé pour les ménages et aussi dans les zones rurales. Les expériences à succès en Afrique de l'Est, c'est vrai, ne permettent pas toutes ces facilités. On peut s'éclairer, brancher quelques petits équipements à minima, mais pas autant. Et les succès sont fabuleux parce que les offres sont autour de 100 $, quoi. Donc, le coût d'accès, dans le cadre de ce projet, effectivement, est une contrainte. La première question sur la distribution, la commercialisation, Yao a raison. Lui, son rôle, c'est vraiment d'abord d'assurer l'intégration des produits. Après, pour faciliter la pénétration du marché, il est obligé de passer par des intermédiaires un réseau de distribution assez dense. Alors le problème auquel il va être confronté, c'est qu'à l'échelle du territoire, il n'a pas un réseau de distribution aussi dense comme on l'a dans des pays où la distribution est très structurée. Donc rapidement, il va être confronté à la limite de l'exercice parce que le réseau n'est pas très étendu. En revanche, passer par des associations, des ONG qui font du développement à l'intérieur des pays, avec des organisations de développement qui soutiennent ces ONG.
C'est ça, des organisations agricoles notamment.
Par exemple, peuvent constituer un relais non seulement pour l'accès au financement, mais aussi pour la distribution. Donc, au lieu de la distribution classique, supermarché ou tout ce qu'on voit plus autour de nous, c'est regarder aujourd'hui les circuits qui permettent d'aller vers les consommateurs, pas simplement pour un usage domestique, mais je vois qu'il y a un usage entre guillemets économique, c'est-à-dire l'agriculteur peut l'utiliser, celui qui a un moulin qui moue des grains peut l'utiliser. Donc il y a des solutions effectivement semi-industrielles économiques qui peuvent passer par des relais qui appuient ces organisations paysannes et ces populations à l'intérieur des pays avec l'appui des organisations développantes. Ouais. Et ça me permet de rebondir.
Parce qu'il ne faut justement pas rêver, hein, on ne va pas avoir un plan de l'État pour aider les agriculteurs à acquérir, avec une petite aide, à acquérir un système électrosolaire.
On peut rêver. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut rêver. Les gouvernements, effectivement, déploient des programmes de soutien aux populations, aux paysans, aux agriculteurs. Mais justement, comme Yahoo a gagné un prix de la BOAD, je crois que c'est un acteur clé aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines à Lomé, j'ai participé aux 45 ans de la BOAD et le thème, c'était justement les énergies renouvelables, les énergies alternatives. Donc, c'est un gros focus aujourd'hui de la BOAD, qui est une banque de développement qui peut justement accompagner un projet comme celui-là à une échelle beaucoup plus large. Et justement, en permettant aussi de mettre en place des solutions de paiement alternatif comme Yahoo essaie de le faire. Bon, c'est déjà deux premières réponses. Mmh. On peut peut-être avoir le retour de Yahoo avant de répondre à la troisième question.
Yahoo, oui, sur ses propositions.
Oui, tout à fait. En fait, Claude Didier a bien dit la chose parce que nous avons une vision plutôt sous-régionale de la chose et c'est dans le cadre du 45e anniversaire là que nous avons suivi ce projet. Alors la difficulté majeure aussi c'est le monde de financement approprié pour aller vers cette échelle d'industrialisation et surtout si on a aujourd'hui des subventions pour ce type de projet qui peut vraiment nous permettre de vraiment conquérir le marché à petits pas et de façon sereine quoi. C'est un peu ça, on a un peu de la difficulté à trouver les bonnes informations appropriées pour parce que le marché solaire est dynamique et quand vous avez une solution comme ça, il faut que ça prenne rapidement corps et constante en termes de réalité concrète sur le terrain.
Ouais. C'est un peu ça, il faut peut-être élargir votre champ de recherche, hein, comme le disait Didier, aller voir des organisations à la fois sous-régionales, des ONG. Il y a de grosses ONG aujourd'hui qui font de l'appui aux agriculteurs. On peut aussi, quand vous nous avez donné les chiffres du prix du pack de base qui ont quand même énormément chuté parce que on est passé de 1,5 million à 600 000 francs CFA.
Ça va continuer de chuter
non, ou pas le solaire, l'équipement,
ça va continuer de chuter.
Les pièces.
Oui, enfin, ça va continuer de chuter. Je pense que Yahoo sera d'accord. Et en réalité.
Oui, tout à fait. En fait, la production à échelle. On est déjà passé de 2015 à aujourd'hui à diviser le coût quasiment par deux. Et donc, nous sommes persuadés. En fait, notre modèle que nous utilisons, c'est le modèle de la téléphonie mobile, à la fois sur le plan économique que sur le plan technologique.
Voilà.
Et donc, ça va décroître normalement comme les coûts de terminaux de téléphone mobile aujourd'hui. Sauf qu'il faudrait véritablement aller à cette industrialisation et localement, en fait. C'est ça que
vous êtes un tout petit peu en avance, finalement.
Il est dans son temps. Non, Yahoo est dans son temps. Pour la simple raison que on doit aller vers des solutions, l'accès à l'énergie est quasiment une obligation des États. C'est-à-dire aujourd'hui, sans énergie, on ne peut rien faire. Deuxièmement, on va vers des solutions extrêmement décentralisées, comme ce qu'il propose, avec des coûts qui baissent. Maintenant, c'est de trouver des formules avec les États, avec les organisations de développement, tous ceux qui font la promotion des fonds, les fonds verts, les fonds dédiés à l'énergie renouvelable, le Faber, par exemple, qui a Lomé dans les locaux de la BOAD, qui ont des financements justement pour accélérer la fameuse transition énergétique et l'accès à l'énergie au plus grand nombre. Donc, Yahoo est dans son temps, il faut juste qu'il arrive à négocier avec des partenaires au développement et les États qui acceptent de prendre cette solution, comme ce qu'on a vu au Sénégal. L'État sénégalais investit massivement, comme au Maroc, dans des villages solaires, ouais. C'est-à-dire entiers. Donc, on peut arriver à encourager les mêmes dynamiques avec des solutions comme celles qu'offre...
Et là, ce qu'il faut, c'est l'appui au consommateur final. Hein.
Exactement, et ça permettra une pénétration
un peu
beaucoup plus rapide du client, du marché.
Vous arrivez bien, juste dernière question, vraiment en quelques secondes, Yao, vous arrivez à convaincre les agriculteurs notamment de tout ce qu'ils peuvent gagner avec un groupe électrosolaire qu'on peut transporter dans son camion, dans son 4x4 hein.
Oui, nous avons fait une petite expérience avec un petit village à environ 5 km de Lomé, où nous avons aujourd'hui 5 agriculteurs qui ont nos groupes électrosolaires, justement. Et ça commence par les intéresser forcément parce que ça les fait à la fois pour leur petite irrigation et pour leurs équipements le soir. Maintenant, c'est à toute petite échelle là, et maintenant il faut véritablement aller non seulement au niveau des agriculteurs, même en ville, hein, parce qu'en ville il y a beaucoup de délestage, et ces solutions sont aussi très adaptées, autant en ville que dans les milieux ruraux. Donc on est un peu sur les deux créneaux, parce qu'il y a des menuisiers, des meuniers en ville, il y a même des couturières ou des couturiers.
Ouais, mais il faut les emmener avec vous pour témoigner, hein, surtout du gain ensuite.
Absolument.
Pour leur petite...
Non, et puis je crois aussi peut-être aux solutions partagées. Au lieu que un agriculteur ou un tailleur investisse tout seul dans cet infra qui coûte quand même 1000 euros, s'ils se regroupaient, par exemple, les paysans se regroupent ou les agriculteurs se regroupent à plusieurs, et donc ce partage d'utilisation et le coût, c'est aussi un moyen peut-être de faciliter d'abord une première acquisition du produit, et au fur et à mesure, quand les gens voient le gain et le besoin qu'ils en ont, ils se rendent compte qu'eux-mêmes auraient aussi intérêt à s'en acheter un. Et du coup, on commence à aller dans des cycles de développement beaucoup plus rapide et de pénétration du produit sur le marché.
Voilà, après tout, c'est pas plus cher qu'un véhicule, hein, et ça peut être partagé.
Exactement.
Merci beaucoup, Yao, de nous avoir beaucoup instruit, je dois dire, sur ces nouvelles technologies. Et puis, bien sûr, on vous souhaite bonne chance et vous nous tenez au courant pour ce projet. Yao, on vous souhaite une très bonne journée à Lomé.
Merci Emmanuel, merci Côte Didier.
Merci
à vous. À très bientôt. Oui.
Didier Akouété, le coach des JPAG, jeune patron de l'Afrique qui gagne, on vous retrouve le mois prochain. Juste en quelques secondes, quel est le projet qui vous a tapé dans l'œil, là, ou dans l'oreille plutôt?
Je pense que le projet solaire, enfin de ce kit, est assez innovant et assez original. C'est-à-dire, plus les coûts vont baisser, plus on va répondre à des besoins extrêmement larges. Et ça veut dire qu'on rentre aussi dans une phase industrielle dans nos pays.
Et c'est l'Afrique qui bouge. Donc merci Didier Akouété. Les voisins, si
le
vous avez pas pu...
Chougalin, on y est. Hein.
Si vous n'avez pas pu passer dans l'émission, les voisins, on reste en contact pour la prochaine émission avec le coach. Vous nous écrivez à 7milliards@rfi.fr. Merci à toute l'équipe. Et demain, 7 milliards de voisins, à l'occasion du Salon du Livre de Jeunesse. Quelles histoires pour les enfants? Quels héros ou héroïnes? Couleur de peau, genre, culture? Les enfants ont-ils besoin de héros qui leur ressemble? Appelez-nous dès maintenant pour nous parler des héros qui ont peuplé votre enfance.